Bonjour à toutes et à tous, La Pierre à Encre, votre magazine consacré au haïku, fait sa rentrée et pour l'occasion j'ai le plaisir de recevoir un monsieur du haïku francophone, Dominique Chipeau, cofondateur de l'association francophone de haïku, fondateur de l'association pour la promotion du haïku francophone et auteur d'un certain nombre de projets éditoriaux importants, tels que la publication en français de l'intégrale des haïkus de Mathieu Bachot ou l'anthologie du haïku féminin du Rouge aux Lèvres. Dominique Chipeau vient de faire paraître son dernier de recueil de haïku, Staccato d'un pic, c'est aux éditions Pipa. Avant de parler de ce livre, peut-être revenir sur l'origine de votre passion pour les haïkus. Comment elle est née? Comment vous avez rencontré ce tout petit poème japonais?
Tout simplement parce que je m'intéressais au Japon et à sa littérature. Et donc, lisant des romans de fil en aiguille, j'en suis arrivé à découvrir Oreiller d'herbe de Soseki. Et dans ce roman, Soseki, son héros, qui est un artiste peintre qui s'interroge sur la vie, sur son art, qui part à la montagne dans une auberge, écrit des haïkus dans son cahier, et puis il y a tout un jeu autour des haïkus. C'est comme ça que j'ai découvert cette poésie.
Ouais, c'est une sorte de haïbun, c'est ça, Oreiller d'herbe?
Oui, on peut considérer que c'est un haïku dans ce sens qu'il y a un mélange de prose et de haïku, mais c'est avant tout un véritable roman. C'est pas une démarche poétique au même titre que les haïbun de Bachot, qui sont des pérégrinations sur les routes japonaises. Ici, on est vraiment dans un roman avec une intrigue et un début et une fin. Ouais.
J'ai appris il n'y a pas très longtemps que c'était le livre préféré de Glenn Gould. Preuve s'il en est que ce livre est tout à fait passionnant. Qu'est-ce qui vous a séduit finalement dans les haïkus que vous n'avez peut-être pas rencontré dans la poésie dite traditionnelle ou de la poésie en vers libre? Quel était le plus?
Ce qui m'a beaucoup séduit en fait dans ce livre de Soseki, c'est que bon, il y a un petit jeu qui se crée sur le cahier de ce peintre, et donc il laisse un haïku, par exemple, il laisse son cahier ouvert avec un haïku, et quand il revient de sa promenade, il peut y avoir un autre haïku ou un mot pour avoir été changé, etc. Donc, ce qui fait que on voit très bien la force des mots dans son tout petit poème et la nécessité de bien agencer, comme disait René Maublanc, de mettre le mot juste à la juste place.
Donc j'en viens à votre livre Staccato d'un pic, donc des haïkus, un opus qui est original dans sa conception parce qu'il modernise la tradition du mot de saison. Est-ce que vous pouvez dire d'abord deux mots sur ce qu'on appelle donc le kigo en japonais, le mot de saison et sa place dans le haïku?
Le kigo, le mot de saison japonais, c'est quelque chose qui est très important. On va dire déjà antérieurement au XXe siècle, là c'était indispensable. Après au XXe siècle, il y a eu différentes écoles. Ce mot de saison, c'est un mot qui va permettre d'ancrer le haïku à un instant donné de l'année en utilisant un mot qui est répertorié. Alors, on parle de mot de saison parce que ce sont des mots qui évoluent au fur et à mesure de l'année et qui vont se situer à une période bien déterminée. Mais en revanche, c'est pas forcément un mot comme on pourrait le penser qui est en relation avec systématiquement avec la nature. Il peut y avoir des mots qui sont en relation avec des jeux, comme ça pourrait être les échasses, par exemple, ou des mots qui sont en relation avec de grands artistes japonais, comme par exemple la journée commémorative. Il y a, bien sûr, on connaît celle de Bachot, mais il peut y avoir aussi la journée commémorative du calligraphe Koetsu. Donc c'est vraiment, et c'est très important parce que ça situe précisément le poème à l'instant T, et ça permet à l'auteur de mettre en relation les sentiments qu'il perçoit à ce moment donné, et donc de mettre des images en lien avec ce mot de saison. Et comme les mots de saison sont répertoriés, comme dans une sorte de dictionnaire poétique, donc le lecteur a déjà la moitié de la clé du haïku qui lui permet de comprendre ce que l'auteur, la sensation que l'auteur ressentait.
Alors vous avez finalement puisé dans un répertoire contemporain qui est celui des journées internationales ou des journées nationales de quelque chose et on s'aperçoit que tous les jours est consacré finalement à une cause, par exemple, ça va être la cause de la femme ou autre chose, et vous avez décidé, vous, d'écrire vos haïkus en fonction de ces fameuses journées. Hein.
Oui, alors j'ai toujours été un peu surpris par toutes ces journées, il y en a plus que le... Je crois qu'il y en a entre 4 et 500, donc il y en a plus que le nombre de jours du calendrier. Et c'est un peu dans tous les pays. Alors, il y a des journées nationales, hein, des journées internationales, des journées mondiales. Il y a des semaines, on connaît la semaine du goût. Il y a des mois, on connaît Octobre Rose. Donc, et puis, il y a même, finalement, des fois des années, puisqu'il y a des artistes. Hein, il y a des artistes musiciens où il y avait l'année Beethoven, je crois, c'était l'an dernier ou il y a 2 ans. Donc, voilà. Donc, tout ça est utilisé au fil de notre quotidien. Et j'ai voulu utiliser ça parce que déjà, enfin, je l'utilisais déjà dans mes précédents recueils, on peut trouver un ou deux haïkus comme ça autour d'une journée. Mais là, la démarche que je voulais faire, c'est que je trouvais ces journées quelque part assez, pour certaines, assez surréalistes. Et puis très il y avait beaucoup d'humour aussi. Et donc, je voulais jouer avec ça. Et j'ai sélectionné donc une quinzaine de journées par mois. Et à chaque journée est associée à un haïku. Alors, la particularité ici, c'est que je n'utilise pas le nom de la journée dans le haïku. Sinon, ça aurait été relativement monotone d'avoir en première ligne journée de la terre, journée de la femme, journée des grands-mères, etc.
Alors, il y a beaucoup d'humour hein, dans ce recueil. Vous prenez parfois le contre-pied, d'ailleurs, de ces journées, parce qu'à l'occasion de la Journée mondiale de la radio, par exemple, vous écrivez « Écoutez, la radio éteinte, le chant des mésanges ». Finalement, vous faites de la résistance, là.
Oui, disons que j'ai voulu effectivement jouer entre les titres, si on peut le dire comme ça, les titres des journées et puis le haïku. Je pratique toujours le photo haïku, et donc dans le photo haïku, qui est un mariage de haïku avec une photographie, il y a plusieurs façons d'associer les deux, et donc j'ai voulu faire un petit peu la même démarche ici, donc soit ça vient compléter le nom de la journée, soit on est en parfaite opposition, soit il y a un petit pas de côté, enfin voilà, il y a différentes façons d'associer les deux genres.
Oui. Alors, il y a plusieurs registres d'humour, d'ailleurs, dans votre livre. Il y a un peu plus grinçant, par exemple, le jour de la fête des voisins. J'aime beaucoup ce haïku. De son balcon, mon voisin m'invite à faire la fête à mes pissenlits.
Oui, alors là, c'est une petite anecdote. Là, moi, j'ai des rapports charmants avec mes voisins. Hein. Mais disons qu'une fois, voilà, j'arrachais les pissenlits dans mon jardin et puis mon voisin m'encourageait à le faire, donc c'est un petit clin d'œil comme ça humoristique sur ce qui s'est passé.
Instauration aussi d'un dialogue avec les haïjins du passé, c'est aussi une tradition dans le haïku. Pour la Journée mondiale du bricolage, vous écrivez « Tous tordus, les clous à côté de la boîte à clous ». C'est un haïku qui fait écho à celui d'un autre haïku de Osai.
Oui, alors ici, bon, c'est aussi disons que c'est les jours. Le nom de la journée m'a fait penser à ce poète, et donc j'ai réalisé un clin d'œil à son haïku. J'en ai fait 2, je crois, au total dans le recueil. C'est aussi une façon de japonaise hein, d'écrire des haïkus. Oui. Des fois, les maîtres d'un siècle à l'autre se répondaient.
Oui. Ce qui fait finalement du monde du haïku une sorte d'éternel présent.
Ah oui, tout à fait. De toute façon, c'est le propre même du haïku. Je dirais que là, ce qui permet de différencier le haïku d'une poésie libre, c'est pas tant sa forme que sa finalité, qui est de suggérer une sensation qu'on a ressentie à un moment donné. Alors après, cette sensation, elle peut être elle peut mettre en avant un élément, un mot saisonnier, comme dont on avait parlé tout à l'heure, mais c'est pas indispensable aujourd'hui dans le haïku contemporain.
Votre pratique du haïku, elle est quotidienne, c'est-à-dire que vous avez toujours un carnet sur vous, un crayon?
Alors, non, pas du tout. Je n'ai aucun carnet parce que, alors comme tous les amateurs de haïku, à mes débuts, j'avais un carnet, mais finalement, je l'ai abandonné parce que je trouve que c'est un peu, comment dire, la même démarche qu'avec un appareil photo, c'est-à-dire qu'après, on ne regarde plus ce qui se passe, on va noter tout le temps ce qui nous passe par la tête. Et je trouve que ça n'a pas forcément d'intérêt parce qu'on va noter plein de choses et trop de choses. Donc je note mes haïkus dans la tête, j'essaie de les garder. Et puis quand je suis en balade, en rentrant de balade, je vais noter, ou plus tard, parce que quand je rentre, j'ai pas le temps. Plus tard, j'essaie de les noter. J'en perds beaucoup, mais je me dis que finalement, si je les ai perdus, c'est qu'ils valaient rien.
Ce qui est difficile à faire comprendre à nos auditeurs, bon, les auditeurs de la Pierre Encre connaissent quand même un peu le haïku, mais c'est que finalement, pour écrire un haïku, un vrai, il ne faut surtout pas avoir l'intention d'écrire un haïku. C'est dur à faire comprendre ça. Hein.
Oui, alors bon, on peut. C'est vrai, il faut à la fois. C'est-à-dire, effectivement, si on veut écrire un haïku sur sa propre. Les propres instants que l'on vit, il faut pas se dire je vais écrire un haïku. Il faut attendre que cela vienne après avec un peu d'habitude, avec les disons que le haïku c'est le poème des sens, donc il faut être attentif à ce qui se passe au quotidien, et à ce moment-là on va avoir des impressions et puis on va vouloir les noter. Donc ce qui est important, c'est que il faut réussir à mettre ses sens en éveil et je dirais à ne plus trop penser en tant que personne qui a une certaine culture. C'est ce que je veux dire, c'est il faut pas écrire un haïku qui va dire ce qu'il se passe ou qui va enseigner que après la pluie vient le beau temps. Ouais. Et un haïku ne va pas dire ça, puisque ça n'a pas d'intérêt en soi. Ce qu'on veut, c'est vraiment mettre le doigt sur la sensation qu'on a ressentie. Alors, si on veut écrire des haïkus sur notre propre ressenti, oui, il ne faut pas se dire « je vais écrire un haïku ». En revanche, il y a une deuxième démarche, on en a parlé tout à l'heure, qui peut être de répondre à un poète, à un poème déjà existant, ou qui peut être avoir envie de répondre à des haïkus que l'on lit. Et à ce moment-là, on est assis dans notre fauteuil, et puis la plume va peut-être arriver, mais on va pas. C'est sûr que je pense que c'est vrai de toute façon dans tout art, parce que je considère que le haïku est avant tout un art, et dans tout art il faut un peu se mettre en retrait avant de créer.
Vous dites que c'est un art, mais vous avez aussi écrit un livre, Haïkudo, c'est aussi une voix.
Oui, alors bon, j'ai choisi ce titre Haïkudo parce que c'est la voie au sens de chemin. C'est-à-dire que pour moi, le haïku, c'est un chemin, et donc tout chemin a des croisements. Et on va au fil de sa vie d'auteur de haïku, on va choisir d'aller à droite ou à gauche, enfin de regarder différentes possibilités, parce que le haïku, on se résume souvent en un poème de 17 syllabes en 3 lignes avec une césure, un mot de saison, mais ce n'est pas que ça. Quand on regarde l'historique du haïku japonais ou même l'historique du haïku français, il y a énormément de variétés. Donc, peut-être qu'il est intéressant de cheminer sur cette voie du haïku. Je pense que de toute façon, c'est une voie qui n'a pas de fin. Et pour découvrir différents auteurs, et essayer de voir essayer différentes techniques aussi, puisqu'il y a quand même si c'est, comme je dis, c'est un art, donc pour moi, il n'y a pas de boîte à outils qui existe, c'est comme ma peinture, quoi, c'est pas parce qu'on aura une boîte de gouache et des pinceaux qu'on arrivera à créer quelque chose. Donc c'est pareil, le haïku, c'est pas parce qu'on connaîtra toutes les ficelles de la rhétorique qu'on pourra forcément créer un haïku qui va toucher le lecteur.
Dominique, merci beaucoup. Staccato d'un pic, haïku de Dominique Chipot, publié aux éditions Pipa. On va laisser courir quelques notes de musique avant d'ouvrir ce livre et de vous lire, chers auditeurs et auditrices, quelques poèmes extraits de ce très beau recueil. Merci beaucoup, Dominique.
Merci à vous.
Et voilà, avant de rejoindre notre ami Jean Antonini, quelques haïkus extraits de Staccato d'un pic de Dominique Chipot aux éditions Pipa. 2 janvier, second jour de l'an, cette année encore, pour toute résolution, rien de nouveau. Cette année encore, pour toute résolution, rien de nouveau. Écoutez la radio éteinte, le chant des mésanges. Écoutez la radio éteinte, le chant des mésanges. Jour de grève, surpris par un train. Jour de grève, surpris par un train. Ça, c'est un haïku du 18 février, journée mondiale d'action en faveur du droit de grève. 21 février, journée internationale de la langue maternelle. Seul un merle répond à un autre merle. Seul un merle répond à un autre merle. 27 février, journée mondiale des ONG. Violent orage en ville. Incapable de dire aux sans-abri où trouver un abri. Violent orage en ville. Incapable de dire aux sans-abri où trouver un abri. Premier dimanche de mars, fête des grands-mères. Première pivoine, mémé intarissable sur son enfance. Première pivoine, mémé intarissable sur son enfance. 20 mars, journée française de l'allergie. Train bondé, le parfum de ma voisine me gonfle les lèvres. Train bondé, le parfum de ma voisine me gonfle les lèvres. 20 mars toujours, journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Vent violent, un grain de sable entre les dents. Vent violent, un grain de sable entre les dents. 25 mars, journée mondiale de la procrastination. La procrastination, vous le savez, c'est l'art de remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et Dominique Chipot nous écrit « En pyjama, toute la matinée, même pas malade. » En pyjama, toute la matinée, même pas malade. 4 mai, journée internationale des pompiers. Le feu de forêt, si loin. Si beau. Le feu de forêt, si loin, si beau. Second week-end de mai, journée mondiale des oiseaux migrateurs. L'hirondelle revient dans le village, tous les fils enterrés. L'hirondelle revient dans le village, tous les fils enterrés. 9 juin, journée mondiale du bien-être. Matin d'avant l'aube, sans raison s'éveiller, plein d'entrain. Matin d'avant l'aube, sans raison s'éveiller, plein d'entrain. Enfin, je terminerai par la journée mondiale de la philosophie, 3e jeudi du mois de novembre. Fermez le livre de philo Puis, cuisiner une tarte au quetsch. Fermer le livre de philo, puis cuisiner une tarte au quetsch. C'était des extraits de Staccato d'un pic, haïku de Dominique Chipot, publié aux éditions Pipa, illustration Antoine Fernandez. C'est pour moi maintenant le moment de céder la parole à Jean Antonini qui nous revient cette année avec une thématique ô combien intéressante, passionnante, qui nous ramène aux sources du haïku, puisque la thématique c'est ni plus ni moins que Matsuo Basho, le créateur du haïku.
Comme je vous l'avais dit en juin 2020, je souhaite consacrer mes chroniques 2020-2021 au poète Matsuo Basho, qui a vécu au Japon de 1644 à 1694. Basho, son nom d'écriture signifie « bananier », car il y avait un bananier près de la maison où il a habité longtemps. Est sans doute un des poètes les plus connus internationalement, et son hoku Furuikeya Kawazu Tobikomu Mizuno Oto, vieil étang, une grenouille plonge, bruit de l'eau, a été traduit dans de nombreuses langues et de manières différentes, bien que le poème ne contienne que 7 mots. Les auditeurs de Radio Grand Ciel qui lisent la revue Gong, dont je suis le rédac-chef, savent que nous avons eu le plaisir de publier dans le numéro 66 une photo d'un exemplaire du numéro 65 déposé par Isabelle Asunsolo et Eric Elal sur la tombe de Basho. Et j'en étais très fier. Pourquoi cet intérêt pour un poète d'un autre pays que la France, du XVIIe siècle ? Pourquoi consacrer toute une année à ce grand poète ? Pour deux raisons essentielles. La première est liée à l'histoire du haïku. Nous pratiquons aujourd'hui dans les pays francophones un genre poétique dont nous ne connaissons pas très bien l'histoire. Mais celle-ci est importante puisque notre travail s'y rattache. Il me semble donc aussi important de parler de Basho comme le début de l'histoire d'un genre poétique que nous pratiquons. Une histoire qui commence au Japon et qui, aujourd'hui, s'est étendue à de nombreuses régions de la planète. Cette histoire est singulière par le fait qu'elle transcende depuis plusieurs dizaines d'années les limites étatiques ou culturelles et contribue à former une culture poétique moderne plus étendue. La seconde raison est liée au genre poétique lui-même. Il comporte des règles rythmiques, 17 sons en 3 groupes de 5, 7, 5 morts, des règles structurelles. Le poème est composé de 2 parties distinguées par un kiréji ou mot césure. Des règles thématiques, emploi d'un kigo ou mot de saison. Et des règles esthétiques. Une grande partie de ces règles ont été proposées par Basho. Mais cet ensemble est fragile. Nous voyons le haïku, par sa petitesse, être associé facilement à la publicité, au roman, à l'enseignement, à la photographie, à la psychologie, etc. Car ce poème très court peut, comme une photographie, s'insérer un peu partout et pour de multiples raisons. Moi-même, je me surprends à user du haïku pour faire passer une idée, comme l'a fait autrefois Julien Vaucance, 1878-1954, et malheureusement, en usant du genre japonais comme d'un véhicule à idées, nous affaiblissons le genre. Par exemple, l'art poétique de Vaucance est exprimé ainsi. Le poète japonais essuie son couteau, cette fois l'éloquence est morte. Hormis le fait que la rythmique ici est 6, 5, 7, et que le tercet ne comporte pas de mots de saison, à l'époque les poètes français ignoraient le kigo. Ce poème veut exprimer une idée par le biais d'une expression concrète, c'est-à-dire user d'une métaphore. Avec l'usage du haïku, le poète japonais et son couteau, l'éloquence est tuée. La concision poétique l'emporte sur les poèmes longs. Or, idées et métaphores ne sont pas le propre du haïku. Elles supposent soit que le langage sert à faire passer autre chose, soit que le langage du poème a été singulièrement travaillé pour atteindre la métaphore. Or, une des caractéristiques du haïku, ou plutôt à l'époque de Bachot du hoku, le premier verset d'une écriture collective, c'est d'être écrit dans un geste spontané. Ce qui arrive ici, à cet instant, et d'une certaine façon, en usant du rythme du haïku de cette façon, Vaucance dévoie le haïku. Il aurait mieux valu qu'il use de la prose pour aborder cette idée et ne dévoie pas le haïku dans les développements de réflexion, à mon avis. Il arrive qu'on trouve dans l'intégrale des Hoku de Bachot, aux éditions La Table Ronde, quelques poèmes qui expriment une idée. Je vous donne les numéros des poèmes dans l'édition de La Table Ronde. 416. Nanigoto no mitate nimo bizu mikano tsuki. Le croissant de lune ne se compare à rien. Mais aussi qui note l'idée que pensée et ressenti peuvent être séparés. 640. Inazuma ni Satoranu Hito no Tutosayo. Au vu de l'éclair, celui qui n'est pas illuminé est plutôt vénérable. Le pratiquant de haïku se laisse facilement emporter par l'usage de cette forme si souple. Il m'est arrivé de me réjouir du fait que le genre poétique japonais avait quitté le Japon au début du XXe siècle et que nous puissions en user aujourd'hui en France et dans de nombreux pays. J'avais écrit dans un carnet et publié sur ma page FB. Le haïku a quitté le Japon. Quel bonheur! Trois lignes, trois syllabes, six syllabes, trois syllabes, une rythmique, pas de mots de saison, une idée développée. Je pense que ce court texte n'a rien d'un haïku et peut, comme celui de Vaucance, dévoyer le haïku, un genre magnifique et fragile dont il convient de nous situer à la hauteur de son histoire. Une histoire d'abord japonaise et aujourd'hui transculturelle. 644. Kari Kikini. Miyako no Akini Omomukan. J'irai cet automne à Kyoto écouter les oies sauvages. À la prochaine fois.
Un grand merci à Jean Antonini que vous retrouverez le mois prochain dans un nouvel opus de La Pierre à Encre. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellentes journées à venir, à l'écoute bien évidemment des programmes de Radio Rancière, la radio qui rapproche les hommes.